bienvenue à la série « Le monde change ». Ici Michel Landry. Une série d'interviews, de reportages, de rencontres et des découvertes avec des gens d'ici et des proches qui nous témoignent des réalités d'ici et maintenant, avec la participation du Fonds canadien de la radio communautaire. Un sujet qui est sur toutes les lèvres actuellement, c'est les communautés autochtones et métisses du Canada. Il y a quelques années, j'ai participé à des recherches archéologiques avec l'historien Leonard Clark. Le sujet, trouver des artefacts qui témoignent de la présence autochtone aux îles. Même si après avoir parlé avec la chercheure attachée au musée McCord, Moira McCaffrey, il n'y avait pas l'ombre d'un doute sur le passage autochtone dans les îles, puisqu'elle-même, au début des années 90, avait procédé à des recherches concluantes sur le terrain. Il y a peu de temps, au mois de septembre, il y a eu une conférence à La Vernière avec Stephen Richardson, Mi'kmaq. Je l'ai rencontré.
Je suis un homme d'affaires au Nouveau-Brunswick, mais aussi membre des communautés Mi'kmaq de là-bas. Je siège sur des comités avec des hauts placés, comme ça s'appelle le Mi'kmaq Clan Mother Governing Council, où il y a des chefs héréditaires avec nous autres, des chefs régionaux et d'autres personnes qui siègent à tête de gouvernance de petits groupes qui se disent autochtones, métis, et aussi qu'il y en a d'autres qui disent qu'ils ont adopté seulement le mot Mi'kmaq.
Vous êtes de quelle région, Nouveau-Brunswick?
OK. Moi, je suis du nord de la province nord-est, dans la région de Tracadie. J'ai grandi à Pont-la-France. La région où j'ai grandi, c'était une zone militaire. Par toute mon enfance, j'ai grandi à côté d'une base aérienne militaire.
Laquelle?
L'ancien camp militaire de Tracadie. C'est là que tout a déclenché mon intérêt vers les études des familles, ces choses-là. Parce que étant approché avec mon grand-père à la chasse, la pêche, ces véhicules-là, il nous expliquait toujours que ces terres-là du camp militaire avaient été expropriées. Ça fait que nous autres, notre famille, elle a été déportée de ces terres-là, puis que ces terres-là étaient supposées revenir nos propriétés une fois que l'armée l'abandonnait. Ça fait que quand ils ont formé la base en 97, mon grand-père, il voulait que j'écrive au gouvernement. Ça fait que j'ai commencé à écrire au gouvernement. Mais là, ce qu'il me disait, moi, c'était pas assez. J'ai commencé à fouiller les archives provinciales, les archives nationales. Puis là, j'ai commencé à trouver tous les liens des familles. Puis là, on a fait un recensement, un regroupement. Puis c'est là que toutes les généalogies ont découlé, parce que j'ai découvert que mes racines y allaient plus loin que juste sur la grande rivière de Tracadie.
Vous résidiez sur une réserve?
Non. Au Nouveau-Brunswick, je suis toujours un non-statué. Par contre, si on regarde dans ma lignée, mon ancêtre, Catherine Duguay, elle est sur la Registered List des Affaires indiennes. Elle avait été recensée à un moment donné comme autochtone. Puis moi, après ça, j'ai fait faire une carte généalogique à 10 générations complètes tout le tour de moi. Puis là-dedans, je retrouve 14 ancêtres autochtones. Puis il y en a seulement un qui me donnerait un droit à tous les bénéfices fédéraux, qui s'agit de Philippe Mius, qui était un autochtone de la réserve de la Hève en Nouvelle-Écosse.
Durant votre jeunesse, est-ce que vous aviez des relations avec les Autochtones? Est-ce que vous étiez proche? Comment s'est déroulée votre vie culturelle, sociale?
Moi, dans le milieu de ce que j'ai vécu, lorsque tu allais au restaurant, lorsque tu allais dans un bar, tu aurais pu rencontrer des personnes autochtones. Mais moi, ma première relation avec les Autochtones au niveau scolaire, ça ne s'est pas fait avant que j'arrive à mon secondaire. Mais j'ai découvert par la suite que ça, c'était causé par le gouvernement lorsque le 66 Scoop enlevait tous les enfants des réserves pour les envoyer dans des pensionnats. Ça fait qu'ils n'avaient pas en existence dans notre milieu. Jusque j'habite, tu vas retrouver des Autochtones hors réserve qui se sont détachés de la réserve puis ils vivent dans le milieu avec tous les autres gens. On a aussi Astur dans l'industrie de la pêche, jusque tu vas y aller sur les quais où ce qu'il y a des bateaux autochtones avec des équipages autochtones. Puis parce que au Nouveau-Brunswick, la manière que c'est dessiné, on a des communautés de Saint-Basile qui pêchent au quai par chez nous. On a des pêcheurs blancs qui pêchent les quotas des autochtones avec un équipage autochtone, comme mettons pour la réserve de Tobique. En relation avec ICIT, j'ai soulevé le point dans la conférence que j'avais donnée. Aux îles de la Madeleine, il y a déjà eu des bateaux qui ont été vendus au bénéfice des réserves de la Côte-Nord. Puis, tout prochainement, ça pourrait se refaire aussi. Donc, ici, les Madelinos ou les pêcheurs qui sont ici, ils pourraient voir encore un impact au niveau de la pêche, de perdre des vaisseaux par d'une ressource qui s'en va à l'extérieur. Mais chez nous-mêmes, les Autochtones qui sont là, nous autres, on a à peu près de 12 000 de recensés qui se disent métis. On a 22 réserves en Atlantique. Au Nouveau-Brunswick, si je ne me trompe pas, je pense que c'est 12 réserves. Puis, ils sont Mi'kmaq et Malicite au Nouveau-Brunswick, les réserves. Ça fait qu'on a deux communautés autochtones au Nouveau-Brunswick.
Vous dites vous êtes vraiment intéressé longuement des recherches, des documents qui prouveraient des droits légaux sur des territoires.
Dans les documents du gouvernement, tu peux retrouver juste que le gouverneur général lui-même va annoncer publiquement. Le nouveau gouvernement, aujourd'hui, on est sur les terres non cédées des Autochtones. C'est écrit dans les papiers. Ici, au Québec, j'ai pas encore entendu qu'ils l'avaient dévoilé comme quoi ce que c'était, mais les îles de la Madeleine sont en partie une pièce des territoires traditionnels non cédés des Mi'kmaq.
La même communauté qui est présente au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse,
oui,
dans le Maritime.
C'est pas la communauté, c'est la tribu. La tribu Mi'kmaq, sur le territoire Mi'kmaq, se divise en quatre groupes autochtones. T'as les Biotoques à Terre-Neuve, t'as les Mi'kmaq qui couvrent majoritairement l'estuaire du Saint-Laurent et la Nouvelle-Écosse. Et lorsque t'arrives plus sur le côté ouest du Nouveau-Brunswick, t'as les Malicites au nord. Plus tu vas vers le sud, t'as les Pisnequati. Puis si que tu rentres sur le territoire Mi'kmaq qui est existant au Maine, là-bas, on les appelle les Abenaki. Ça fait sur le territoire Mi'kmaq, tu vois les différents groupes autochtones. Mais les groupes qui étaient moins importants, ils sont la tribu Mi'kmaq, mais les groupes moins importants, souvent, c'était un tête de clan.
C'est plus une tribu, on appelle ça une tête de
c'était,
clan.
C'était une tête de clan parce que le volume était plus petit. Aujourd'hui, oui, ils sont plus nombreux, mais au Nouveau-Brunswick, dans les documents du gouvernement, tu vas voir que lorsque le roi a demandé à Thomas Carleton de créer la province du Nouveau-Brunswick, il a dit « tu iras rentrer en traité avec les chefs de tribu et les têtes de clan ».
En quelle année?
En mars 1784.
Vous n'avez pas fait mention de l'île du Prince-Édouard, ni des
L'île du Prince-Édouard fait partie de l'estuaire du Saint-Laurent. Parle-moi du golfe, plutôt. Puis, à l'île du Prince-Édouard, il y a seulement une communauté autochtone qui est Lennox Island. Puis, ils sont Mi'kmaq, eux autres aussi. L'île du Prince-Édouard, c'était un peu mitigé parce que ils disent que l'île du Prince-Édouard faisait aussi partie des terres de Rupert. Les terres de Rupert, c'est qu'est-ce que le roi avait une possession dessus. Puis c'est pour ça que lui avait pu les signer aux compagnies de l'Abitibi-Témiscamingue et des territoires du Nord-Ouest. Ça fait que là, il y avait eu des signatures territoriaux. Ça fait que le titre avait passé aux mains du roi. Mais aujourd'hui, il le considère comme territoire non cédé aussi des Mi'kmaq. Pour être sûr, moi, quand je garde sur les documents de terres de Rupert, je vois pas que l'île Prince-Édouard est inclue, mais mes personnes qui sont à la table avec moi, qui sont des chefs héréditaires, eux autres me disent que l'île du Prince-Édouard faisait partie des terres de Rupert.
Et puis les îles de la Madeleine, là-dedans?
Ici, c'est un chef de tribu qui a signé pour tous ses descendants naturels. Le chef de tribu, il signait pour sa famille et ses membres et tous ses descendants de sa tribu. Le premier chef qui a signé, qui donne un impact aux îles de la Madeleine, c'est que lorsque Matthew Meus, à l'île de Cap de Sable, lorsqu'il a signé...
C'est où l'île de Cap de Sable?
L'île de Cap de Sable, c'est à peu près au sud-ouest de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, comme à la pointe sud-ouest de Yarmouth. Ça fait que lui a signé en 1725, là-bas, un traité de paix que... Il ferait pas de guerre, puis il s'accorderait avec tout le monde, puis il allait expliquer à son régime ou son groupe que c'est ça qui a été signé, c'est ça qui a été entendu. Puis on dit Matthew Meus, l'impact avec les îles de la Madeleine, parce que c'est les racines qui découlent ici aux îles de la Madeleine. Après ça, en 1752, Matthew Meilleux et 34 autres chefs ont été amenés par le roi au nord de Boston pour y aller signer un autre traité d'amitié pour l'Atlantique. Puis c'est là que Matthew Meilleux, lorsqu'il signe, ça donne l'impact, puis ça inclut les îles de la Madeleine, parce que les îles de la Madeleine ne sont pas dans les districts dessinés par les deux missionnaires qui étaient stationnés sur la baie des Chaleurs, à Listiguish. Ça fait qu'ici, on a 1725 qui est important pour les îles de la Madeleine, on a 1752 qui est important pour les îles de la Madeleine, puis en 1761, il y a Frank Meilleux qui resigne un autre traité de paix. Puis on a des gens des îles de la Madeleine qui touchent les ascendances de Frank et non de Matthew. Mais les Meilleux aux îles de la Madeleine, c'est qu'ils sont tous interreliés. On a les Chevary qui touchent les Meilleux, on a les Hébert, on a des Arsenault qui touchent les Meilleux. Ça fait que là, ça commence à faire l'ensemble des îles de la Madeleine qui auraient des origines autochtones, descendants de traités, avec une responsabilité fiduciaire du gouvernement fédéral et aussi un droit au bénéfice des traités qui sont reconnus dans la Constitution par l'article 25. Puis l'article 25 dit que ce sont les droits de traités, les droits ancestraux, autrement acquis, sans faire exception que ça ne touche pas les droits garantis par la Proclamation royale de 1763. Proclamation royale 1763, ça dit clairement que le roi laisse le territoire, les ressources et le libre accès de voyager, se déplacer aux autochtones du pays ici qui avait découvert.
Stéphane Richardson, si vous permettez, on va faire une courte pause et on est de retour dans quelques instants. Retour avec notre invité Stephen Richardson. On parle très peu aux îles de la présence autochtone sur l'archipel. Est-ce que vous connaissez un regroupement? Parce qu'il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de centre dédié à cette communauté.
Les îles de la Madeleine, oui, c'est tout nouveau, mais ça reste qu'il y a des gens ici, que ça fait 15 ans, 20 ans, ils font de la recherche. Il y en a qui sont enregistrés comme groupe, qui veulent se faire reconnaître leurs héritages. Ça fait plus de 15 ans. Moi, qu'est-ce qui m'a amené ici? C'est justement que j'ai appris, par l'intermédiaire de d'autres groupes chez nous, que les Meilleux, qui étaient sur la côte nord au Nouveau-Brunswick, parce qu'il y a une communauté Meilleux à Madron, au Nouveau-Brunswick. Puis ce groupe-là, on interchange des documents. Puis là, il m'a dit, ouais, ben nous autres, on a 200 membres aux îles de la Madeleine. Ben j'ai dit, ben qu'est-ce qui les représente? C'est là qu'ils m'ont dit, Jacques Meilleux, c'est lui qui agit à titre de chef pour la communauté. Puis là, j'ai rentré en contact avec Jacques, j'ai parlé, mais moi, j'ai un accent. Les Madelinos ont un accent. Ça fait que là, on avait un petit problème de communication au début, mais là, c'est plus démystifié.
Est-ce que vous voyez des similitudes avec vos regroupements chez vous?
Faut pas oublier l'aspect économique, l'aspect culturel, l'aspect touristique et la nouvelle couleur qu'on pourrait ajouter à l'histoire des îles de la Madeleine.
Lorsque l'on parle de notre histoire, on parle nécessairement de l'histoire acadienne. Le premier peuplement permanent aux îles était des Acadiens venus de Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous, vous revendiquez la présence autochtone sur les îles bien avant. Qui venaient ces autochtones de façon saisonnière sur les îles pour notamment la chasse, la pêche? On pense naturellement aux morses.
Ouais. Quand on regarde historiquement les premières présences européennes en Amérique qui ont voyagé tout le tour du fleuve Saint-Laurent puis faire toute la visite du Golfe, puis qu'il y avait eu les premiers établissements européens en Amérique. On parle de Eric Leaf qui date des années 625 à 1050, où ce que lui a colonisé des settlements au Greenland et à l'Anse-aux-Meadows. Fait pendant les 400 ans qu'il a été ici sur la côte Est, il a probablement rentré, voyagé alentour d'ici. Puis Eric Leave, il était accompagné des Biotocs, qui était la communauté autochtone des îles de Terre-Neuve. L'île de la Madeleine en faisait aussi partie de Terre-Neuve, mais ça, c'est juste après que la colonisation a débuté. Ça fait qu'ici, il faut penser que si les résidents de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ont découlé aux îles de la Madeleine, bien avant que le settlement était fait à Saint-Pierre-et-Miquelon, les Biotocs possédaient déjà le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'hypothèse qu'il y a, c'est que les Biotocs ont probablement été les premiers à mettre pied aux îles de la Madeleine avec les Vikings. On sait que les Mi'kmaq ont aussi venu aux îles de la Madeleine. Le premier settlement qui s'est établi ici, là on parle que c'était pas dans les années 600, c'était pas dans les années 1700, c'est juste par après. Puis les Français qui avaient quitté là-bas pour venir ici, c'est probablement l'intérêt était plutôt la pêche. Les pêcheurs acadiens, que j'ai pêché avec eux autres, j'ai mieux pêché aux îles de la Madeleine aussi. Les Acadiens, chez nous, si tu fais des recensements généalogiques, ils découlent toutes, pratiquement toutes, de peuples autochtones. Ça fait que ces Français-là, les premiers arrivants, les Français aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon, on pourrait probablement trouver les mêmes lignées, mais associées aux Biotocs de là-bas ou à des descendants mixtes des Vikings. Parce que les Autochtones étaient d'excellents navigateurs. Les Vikings étaient aussi des excellents navigateurs. Les Vikings ont découvert les îles des Caraïbes. Ils ont rentré aux États-Unis, ils ont rentré au Canada. Si tu regardes dans les registres de navigation de tous les explorateurs du Canada, on parle de Cabot, on parle de Champlain, on parle de Cartier, mais il y a eu bien d'autres qui ont venu ici aussi, autres que les Vikings. Puis, dans tous leurs écrits, ils affrontaient les Autochtones, puis il y en a même qui ont eu des guerres ou des batailles sur l'eau, navires contre canots. À Gaspé, Jean Cartier, il y a des hommes qui ont été blessés par flèches. C'était dans les Écritures. Ça fait que quand tu mets tout ça ensemble, un jour peut-être qu'on aura une vraie réalité. C'est sûr que qu'est-ce que j'ai lu? Les thèses, les recherches, je dirais que les premières présences aux îles de la Madeleine, puis les fouilles archéologiques ici le confirment aussi, les premiers arrivants aux îles de la Madeleine étaient les Autochtones.
Durant les années 90, la chercheure Moira McCaffrey est venue sur les îles et avait une étude assez exhaustive qui démontre sans nul doute qu'il y avait présence d'Autochtones sur les îles. Bien sûr, il y a eu des Madelinots qui ont fait des découvertes aux quatre coins des îles.
Sur les îles de la Madeleine, faut pas extraire le fait que on retrouve les mêmes produits qu'ils utilisaient ailleurs. On retrouve le thé du Labrador, le poivre de côte, certaines plantes médicinales, qu'est-ce qu'on appelle le sweet grass est présent aux îles de la Madeleine pour les cérémonies. Il y avait une partie de leurs alimentations qui était présente aux îles aussi. Il y a eu le phoque, il y a eu le moss avec l'air de glace provenance de la Nouvelle-Écosse. C'est probablement le Cap-Breton parce que tu viens en traversier, tu perds de vue le Cap-Breton, tu vois déjà les îles de la Madeleine. J'ai parlé des chasseurs des îles de la Madeleine. Ils pouvaient aller jusqu'à 3000 sur les glaces chasser le phoque. Ça fait, si tu vas à 3000 de distance vers le Cap-Breton, tu vois le Cap-Breton. Absolument. Puis avec les embarcations qui étaient praticables en hiver comme en été, avec les canots, les kayaks de peau, il y a eu aussi chez nous des écritures, parce que nous autres, chez nous, comme la thèse de Hoffman, elle a tellement d'informations dedans sur les existences des peuples autochtones entre 1600 à 1700. Puis, il avait choisi de faire sa thèse sur les Mi'kmaq parce qu'il y avait beaucoup de documentation à travailler avec. Mais en relation ici avec les îles de la Madeleine, on regarde le nom Mi'kmaq, Memquit, qui veut dire île brisée par les vagues ou brisée par la mer. C'est quelque chose que moi j'ai appris en venant ici, qu'il y avait aussi une appellation pour l'île de la Madeleine.
Si vous permettez, on va faire une courte pause et on revient après Sarah Denis.
He go, he gonna...
Métis ne peuvent pas être reconnus comme communauté autochtone du Canada. On est toujours des non-statués. On est des descendants de traités. On ne serait supposé avoir les mêmes privilèges que les individus qui sont dans les réserves. Puis, en revenant sur les réserves, je peux dire, ici, il n'y avait pas de réserve aux îles de la Madeleine. Puis, il y a plusieurs membres enregistrés dans les réserves aujourd'hui sont non plus autres que des métis. J'ai des cousins, des cousines qui vivent dans les réserves, qui étaient des enfants du frère de mon grand-père. La seule place que je dirais où tu retrouverais des liens beaucoup plus serrés, indiens, comme autochtones, ce serait plus vers les Inuits, jusqu'aux autres, à cause de leur distance, moins de mélange ethnique, qu'eux autres, probablement, qui seraient plus proches du sang autochtone original. Même là, le gouvernement a tenté de les anéantir en chassant tous les chiens de traîneau, en tuant tous les troupeaux de caribous. Ils ont fait la même chose dans l'Ouest, d'abolir ou de tuer les bisons pour les amener à les starver, la starvation. C'était les rendre jusqu'ils manquaient de nourriture, puis les forcer à accepter ce que le gouvernement voulait mettre en place. Parce qu'on a parlé pareil, le Indian Act a été créé par John A. Macdonald, le premier gouvernement du Canada. C'est là que l'acte de génocide a commencé sur le territoire, puis il n'a jamais arrêté. Là. Pourquoi qu'au début, qu'il n'y avait pas eu d'entente vraiment de traité, c'est qu'il utilisait les gens métissés qui pouvaient parler le Mi'kmaq, qui pouvaient parler la langue traditionnelle européenne, française ou anglaise, pour utiliser ces gens-là pour essayer d'avancer à travers le continent, puis rentrer en amitié avec les autres groupes. Ça fait que les Indiens s'engageaient de ne pas faire de chicane avec les Anglais ou les Français qui étaient sur le territoire.
À l'heure actuelle, comment vous voyez le regroupement aux îles de la Madeleine?
Ici, il ne faut pas enlever les intérêts culturels acadiens, mais l'héritage qu'ils ont de leurs racines du côté Mi'kmaq, tout cela pourrait juste s'ajouter à la culture des îles. Sur le côté économique, on sait que le fait que les Acadiens ont persisté et qu'ils ont bâti, le gouvernement a investi beaucoup dans toutes ces choses-là. Puis aujourd'hui, les îles de la Madeleine pourraient aussi bénéficier de conserver les bateaux de pêche justement pour un groupe qui se dit autochtone découlant de traités. Ils pourraient établir une communauté autochtone, pourraient aller chercher les fêtes nationales autochtones, apprendre les chants, les rituels, certains mots. Lorsque tu regardes un logo autochtone, que tu vois le blanc, le jaune, le rouge, le noir, ça représente aussi les quatre saisons, mais aussi ça représente l'air, le feu, la terre et le vent. Il y a plein de programmes qui sont là, des montants en réserve pour le développement des Autochtones au Canada. Aujourd'hui, on sait, à l'ère qu'on est, le Sénat donne 10 recommandations au gouvernement canadien pour régler la question des Autochtones et l'implantation des Autochtones dans la pêche. On sait qu'il y a eu des achats de bateaux. Ben là, ils parlent de n'en racheter d'autres parce qu'ils s'aperçoivent que le portage n'est pas équitable. Les gens des îles de la Madeleine viennent directement des traités. Les responsabilités fiduciaires du gouvernement que la couronne avait envers les Autochtones ont été transférées au Dominion of Canada lorsque le Canada a voulu se détacher de la mère patrie. À ce moment-là, on parle de, il y avait seulement 4 provinces au Canada, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, au Canada, Bas-Canada. Mais ils ont reçu la responsabilité fiduciaire du gouvernement fédéral lorsqu'ils ont créé tout le pays, puis le développement des railroads, tout ça. Mais la responsabilité fiduciaire vient directement des traités. Les gens des îles de la Madeleine viennent directement des traités. Donc, ils sont des détenteurs du droit fiduciaire. Puis c'est là que pourquoi ça vient important aux îles de la Madeleine ici, parce que il y aurait accès aux fonds. Parce que lorsqu'ils vont faire la preuve de généalogie, ils découlent des traités. Si qu'on regarde, les traités sont reconnus et affirmés dans la Constitution canadienne. En plus, que faut pas oublier que la proclamation royale est reconnue dans la section 25B de la Constitution canadienne. Ça fait que tous les outils sont là. il reste juste à le verbaliser, puis il reste juste à avoir le bon vouloir du gouvernement, parce que ils sont en train de se faire pointer par les Nations Unies, tout comme le Sénat du Canada qui dit que vous devez éliminer toute votre racisme systémique et votre discrimination dans la prochaine année. Après ça, ils ont 5 ans qu'ils doivent siéger devant le Sénat à tous les années pour voir leurs améliorations. Ça fait que si le timing est bon, puis il faudrait que les îles de la Madeleine, comme toute autre place, qui fassent valoir leur position là-dessus. Ici, déjà, ils n'ont pas besoin de faire d'études. On sait déjà qui ce qui a fait valoir leur position en tant qu'Autochtones. On sait qu'il y a une 15aine d'années qu'aux îles de la Madeleine, il y a une affiche tribu Mius. C'est déjà là. C'est juste de donner la place qui leur revient. Le territoire Mi'kmaq, il s'étend de Nouvelle-Écosse jusqu'au sud de la Gaspésie. Il rentre dans le Maine. Puis aujourd'hui, par le traité des maritimes, il inclurait les îles de la Madeleine. Ça m'a pris 3 ans, 6 juges, avant qu'un juge dise oui, vous accorde le droit d'utiliser la plume d'aigle pour prêter serment devant les tribunaux. Au Nouveau-Brunswick, par la suite, ça a devenu une loi avec les peuples autochtones que toute la province le reconnaît. L'année d'après, AFN, le regroupement national, anciennement qui s'appelait Indian Brotherhood, ils ont voté que la plume d'aigle est accessible dans toutes les instances juridiques du pays. Ça fait que ici, aux îles de la Madeleine, c'est quelque chose qui pourrait être aussi introduit puis respecté en tant que le respect de la culture, les traditions de ces gens-là. Un petit geste qu'un individu a posé a fait un impact provincial, national, puis à ce tour, ça rentre universitaire. Parce qu'à l'école de droit, ils doivent l'enseigner aux nouveaux avocats. Mais c'était juste de dire, moi, je crois en ma culture, à mes croyances, je suis protégé par une proclamation, puis je veux que vous autres aussi vous l'acceptiez. Il faut regarder aussi, aujourd'hui, dans les cours suprêmes, quand on regarde dans Delgamut de la Cour suprême, les juges dites aux juges, il est très important de prendre tous les témoignages oraux des peuples autochtones, parce que les peuples autochtones se passaient l'éducation de père en fils et tout le tour des feux de camp. Et puis, c'était beaucoup un peuple qui était joyeux. La relation qu'il y avait, c'était un être humain est un être humain, puis tout le monde respire la même air, tout le monde a le même sang, puis c'est pratiquement tout acceptable. Ça a même déjà été écrit qu'il y avait 7 différents genres dans les peuples autochtones. Puis aujourd'hui, c'est les tribunaux qui nous font en terre. Les tribunaux ont tellement de lignes pour nous bloquer. Un texte de loi n'est pas applicable sur l'autre. Ah, tu ne l'as pas rentré en bonne et due forme. Tu n'avais pas le bon format. Ça fait, c'est toutes les tricheries, là. C'est comme Delgamut nous dit que les tribunaux doivent respecter les témoignages oraux. Ben, c'est plus ça, là. Puis les Intern Fishing Agreement, même chose. Ils annulent la décision de la Cour suprême. Il annule la protection des traités constitutionnels pour dire à Astur, tout ça va être géré par Pêche-Océan. La bataille va être ardue. Je peux dire que la prochaine année va être décisif, étant donné que le Sénat, je dis pas ordonne, mais recommande au gouvernement d'éliminer tout son racisme systémique et discrimination. Les Nations Unies ont déjà trouvé le Canada coupable devant un comité des droits de la personne pour la maltraitance des peuples autochtones. Là, on vient de voir juste le pape qui est venu s'excuser au Canada pour le traitement envers les Autochtones. La question qu'il y a, c'est le partage de la ressource qui va être dangereuse, étant donné que les gouvernements ont vendu des ressources aux pays étrangers. Ils ont vendu les nappes de gaz à la Chine, ils ont vendu les mines à d'autres intérêts, les Américains sont dans le pétrole, les coupes de bois sont gérées majoritairement par les directives du libre-échange, l'agriculture est gérée par les directives du libre-échange, le métal est géré par les règlements des libre-échanges. Mais le gouvernement devait partager un pourcentage des ressources avec les Autochtones. tout cela, ça fait sans les accords des Autochtones. Ça fait, est-ce que ces accords-là peuvent être toujours valides? C'est des batailles à différents niveaux. Qu'est-ce que je fais? C'est pas pour moi, ma philosophie, c'est quoi ce que je laisse. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui va prendre dans une autre étude ou dans une histoire qui va dire, hey, je fais relation à qu'est-ce que lui a fait, je fais relation à qu'est-ce que lui a dit. Prochainement, il va peut-être avoir un jugement Richardson devant les tribunaux.
Merci à Stéphane Richardson. Au microphone, Michel Landry. Ce reportage a été produit par CFIM grâce à la participation du Fonds canadien de la radio communautaire.